Salut, comment ça va? Nouvel épisode, je suis Violaine, vous me connaissez désormais. Bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui nous rejoignent, parce que vous êtes nombreux ces derniers jours, donc ça nous fait plaisir, à moi et puis bah, à Nathan. Salut Nathan.
Coucou, salut à tous. C'est vrai qu'on commence à te connaître maintenant.
Ouais. Et toi aussi, t'as l'air en pleine forme. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu te sens bien dans tes baskets?
Je vois tout de suite le lien que tu veux faire avec le sujet du jour. Bah écoute, est-ce que je me sens bien dans mes baskets? Ce qui signifie, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je vais bien en général? Plutôt pas mal en ce moment. Tranquille, tout roule. On sort tranquillement de l'hiver. Le printemps pointe juste le bout de son nez. Donc forcément, le sourire est au rendez-vous.
Ouais. Il est encore timide, hein, le printemps, soyons patients. Ouais. Mais c'est vrai que le moral est au rendez-vous aussi de mon côté, donc ça c'est cool. Et puis, on ne va pas le cacher hein, aux gens qui nous écoutent, c'est aussi le bonheur de vous retrouver. C'est vrai qu'on prend du plaisir quand même à parler de la France, à essayer de vous transmettre nos points de vue, nos analyses, notre avis sur notre société.
Et sur les gens, sur les Français, on les connaît bien puisque nous-mêmes, nous sommes Français, on observe en tout cas nos comportements. Et tout ça réuni, on essaye de vous proposer quelque chose d'abouti, de sérieux, évidemment, Violaine, de fiable et de véridique.
Bien sûr. Et juste au passage, si vous comprenez pas tout ce qu'on dit ou si vous voulez suivre cet épisode en lisant ce qu'on dit, en ne ratant aucun de nos propos, eh bien, il y a une seule solution. C'est se rendre sur notre site frenchwithspanish.com, télécharger le script et la transcription. J'y tiens.
Ouais, premièrement parce que c'est super utile pour progresser en français, pour extraire des petits mots, vous savez, des parties qui vous intéressent. Et deuxièmement, parce que tout est gratuit, alors pourquoi ne pas en profiter? Mais ça, c'est l'argument secondaire, la gratuité. Avant tout, c'est parce que c'est utile.
Exactement, télécharger la transcription pour son utilité.
Évidemment. Et puis, ça fait minimum un mois que je ne l'ai pas rappelé, donc je vais le faire cette fois-ci. Mais voilà, s'il vous plaît, vous le savez, je pense, si vous êtes de gros consommateurs de podcasts en général, et en langue en particulier... Il y a une grosse concurrence dans ce domaine et pour que notre podcast French with Panache soit écouté, pour qu'il soit vu par le plus grand nombre, pour qu'il devienne populaire, et la bonne idée, ce serait quoi, Violaine? Vous savez, ce serait de mettre les petites...
Les 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast.
Ce serait un joli cadeau pour nous. Je sais bien que certains l'ont déjà fait, mais pas tout le monde. Donc, allez-y. C'est super simple à faire sur l'application que vous utilisez. Et c'est surtout indispensable pour ce qu'on appelle le référencement.
À vrai dire, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, hein, comment ça marche ce référencement. Mais bon, on sait que plus la note sera bonne, plus haut et meilleur sera notre classement. Donc, grâce à ça, on pourra continuer encore pendant longtemps à faire et à produire nos épisodes.
Ouais, nos petits épisodes. Enfin, bon, c'est une façon de parler, nos petits épisodes, parce que vous pouvez l'imaginer. Chant encore aujourd'hui qu'on va dépasser les 30 minutes, hein.
On verra bien où la conversation nous mènera, mais très certainement, franchement, à peu de choses près, on va, je pense, avoisiner avec la demi-heure, on va flirter avec la trentaine de minutes, parce que c'est un sujet qui vaut le coup, non? Qu'est-ce que t'en penses?
Bah ouais, surtout pour toi, Violaine, j'ai l'impression que la marque Salomon, elle te parle, non?
Ouais, elle me laisse pas indifférente. C'est un nom qui résonne, qui est séduisant pour moi. C'est vrai, c'est une évidence. Mais bon, pour toi aussi, non, Nathan, de plus en plus depuis quelques temps.
Ouais.
Et puis, pour plein de Français. Et aussi, comme Salomon explose à l'international pour plein d'étrangers. Et certainement, parmi vous, bah, y en a chez qui cette marque fait son petit effet.
Vous allez voir, on va tester cette marque. On va tester... Une chaussure même, on l'a juste devant nous, là, sous la main, sous les yeux et pas sous le pied. Ah, mais d'abord, on vous le promet, un truc, Violaine, qu'il faut qu'on précise parce que certains pourraient peut-être en douter, pourraient douter de notre sincérité, mais on vous le jure, on n'est pas sponsorisé, on n'a pas été sponsorisé, on ne gagne pas d'argent, malheureusement, ou pas, pour parler de Salomon. Ils ne nous ont pas contactés, Violaine, toi non plus.
Non. Hein,
ils ne t'ont pas appelé.
Non, non.
Pour faire la petite promo de leur produit. On n'est pas sponsorisé du tout. Donc voilà, on va parler avec le cœur.
Voilà, avec le cœur, parce qu'on croit qu'il y a des choses intéressantes à dire sur cette marque, sur leur parcours, leur histoire, leur évolution sur près de 80 ans. Et puis aussi leur réussite économique qui est assez récente, qui explose, hein, comme je l'ai dit là depuis quelques années. Salomon, c'est ben, un vrai modèle, une vraie référence dans son domaine. Et c'est pourquoi on a décidé d'en parler aujourd'hui. On n'a pas précisé que c'était français.
Ouais, c'est français. On ne l'a pas encore précisé. Eh ben, on le précise maintenant. Mais Salomon, de toute façon, si on se promène hein, sur, sur les chemins en montagne, si on privilégie peut-être la course à pied ou si on fait un jogging de manière occasionnelle ou même de manière tiens, un peu plus intensive, un trail par exemple, hein, pour les plus sportifs, les plus aventureux et les plus courageux d'entre nous, d'entre vous. Vous savez, le trail, hein, c'est quoi Violaine ? C'est de courir
Courir en pleine montagne dans des conditions voilà, où la piste n'est pas toujours lisse, plate et donc facile.
Donc forcément, si vous faites tout ça, eh bien vous êtes forcément tombé à un moment ou un autre sur quelqu'un qui était habillé de la tête aux pieds, de haut en bas, en Salomon, ça c'est sûr. Pour la petite histoire, nous souvent, Violaine, on va faire des randos. Il y a quoi, 2 semaines, on est retourné faire une rando de 4 heures et c'était tranquille hein, dans la montagne. Moyenne montagne, on appelle ça comme ça, avec un paysage méditerranéen aux alentours, devant nous, derrière nous, et c'était sublime. Mais on a croisé pas mal de sportifs et honnêtement, ça courait vite. Hein. Les gens courent en montagne, ça m'impressionne toujours. Dans les pentes, en montée, en descente, et je dirais quoi, sur tous les gens qu'on a croisés, il y avait peut-être 70%, 80% des gens qui faisaient du trail, donc. Et sur toutes ces personnes-là qui couraient vite en montagne, eh ben, tout le monde portait du Salomon. C'était ça, hein, on voyait les petites les petites lettres blanches, là, tu sais, Salomon, les 7 lettres sur les chaussures, sur les vêtements, c'était impressionnant, ouais.
Ouais. Et en plus, là, c'était en Espagne, mais franchement, quand on traverse la frontière, quand on va en France, c'est encore plus visible, encore plus criant. Il suffit d'aller sur un marathon, d'aller faire un tour sur un semi ou même sur une petite course, même un entraînement du dimanche, un tout petit footing tranquille, sans prétention. Franchement, tu vas voir que ça, que des Salomons.
Je sais que c'est très populaire du côté de chez toi, un petit peu du côté de Lyon, dans les Alpes aussi.
On va en parler.
On va dans les Alpes, c'est sûr.
C'est sûr. Bah, je grossis un peu le trait hein, sur le fait que tout le monde porte des Salomon, mais il y en a beaucoup des gens qui sont équipés avec la marque.
Ça concerne donc les chaussures, les t-shirts aussi de sport.
Les collants pour courir et les vestes. Enfin, vraiment, tout. Une gamme d'accessoires qui fait que Salomon, c'est une marque de référence aujourd'hui en France pour articles de sport, vêtements de sport d'été, d'hiver, voilà.
C'est ça. Donc, c'est Salomon, c'est une marque française qui explose aujourd'hui. Juste pour donner un petit chiffre, on a appris il y a quelques mois voilà, que Salomon avait atteint les 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est quand même énorme.
Rien que ça
pour l'année 2022. Voilà.
Voilà. On commence par quoi ? Est-ce qu'on reviendrait pas un peu sur l'histoire de la marque ? Comment elle est née, tout ça ?
Je pense que c'est nécessaire parce qu'en fait, cette spécialisation dans tout ce que tu as dit, l'outdoor, le running, la chaussure pour courir, c'est quelque chose de très récent dans l'histoire de Salomon. Et en fait, il faut revenir en arrière pour comprendre un petit peu le présent, toujours faire le lien entre le passé et le présent. Et à la base, en fait, Salomon, c'était, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent le savent, c'était surtout spécialisé dans le ski.
Ouais, exactement. Tout commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1947, pour être plus précis.
Faut imaginer post-guerre, l'après-guerre, c'est ça, Violaine ? La France de l'après-guerre.
Ouais, tout commence dans un petit village de Haute-Savoie, Annecy.
Petit village.
Ouais.
À l'époque, peut-être.
À l'époque, peut-être.
Ouais. Ou peut-être déjà une ville, mais en tout cas, c'était moins grand qu'aujourd'hui, peut-être moins touristique. Mais on commence à Annecy, c'est ça ?
Ça commence à Annecy, dans un atelier de fabrication, hein, imaginez, au bord du lac d'Annecy. François Salomon crée sa boîte avec son fils qui s'appelle Georges et qui est un ancien prof c'est ça ?
Ouais, c'est ça, en fait. C'est une famille, c'est une histoire familiale. Hein. Annecy, je suis sûr que tout le monde connaît. En tout cas, les gens qui habitent en France, les gens qui ont visité la France. Annecy, on est où ? On est en Haute-Savoie. Mm-hmm. On est quoi ? Une heure de Grenoble. On n'est pas très loin de la Suisse, pas très loin de Genève non plus.
Pas très loin de Lyon.
C'est sublime. Moi, j'adore. J'y suis allé plusieurs fois. T'y es allé aussi ?
Bien sûr, je connais très très bien.
Ouais. Et je me souviens avoir fait du paddle, du stand-up paddle sur le lac d'Annecy. Donc, c'est vraiment une région de sportifs, hein, de skieurs. C'est une région de randonneurs, de marcheurs. C'est vraiment une magnifique région. Allez-y, hein, si vous ne connaissez pas. Et donc, oui, tout commence là en 1947, tu l'as dit. C'est une histoire familiale. Comment s'appelle le patron, le créateur ?
François Salomon.
C'est ça.
Et il a créé donc la boîte avec son fils Georges. Et au début, je crois que son fils, il lui dit de faire des scies.
Bah, au début, ils sont, ils font des scies. Je ne sais pas si vous voyez, les gens qui nous écoutent, vous voyez ce que c'est, mais une scie, c'est un instrument qui permet de couper du bois. Mmh. Et comme dans plein de villes de montagne, on travaille le bois. Et au début, c'est ça, c'est le fils qui dit au père, on va arrêter les scies et on va faire plutôt des quarts de ski.
Quart de ski.
Qu'est-ce que c'est une quart de ski, Avio ?
Quart, donc ouais, c'est la partie centrale du ski, sur le côté droit et sur le côté gauche, qui permet au ski de glisser et de bien rester sur la neige, de bien accrocher la neige, comme on dit.
C'est ça.
Et c'est les premières quarts de ski qui sont inventées avec Salomon.
Ouais, en fait, on est dans le contexte post-guerre de l'époque. Et en France, y a tout un développement des stations de ski.
Du loisir en général.
C'est ça, du sport d'hiver. Et en fait, ils sentent les choses. Tu vois, la famille Salomon, François, Georges, ils veulent comme ça innover. Donc, ils créent ce que tu as très bien décrit, les quarts de ski. Et puis ensuite, ils avancent. Tu vois, ils essayent un petit peu de se développer. C'est pas suffisant. Et ils se disent, on va créer la fixation automatique.
Ouais.
Et la fixation automatique, en fait, c'est quand même une révolution aussi pour le ski parce que ça apporte tout ce qui est sécurité du ski.
Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on avait ? On avait des chaussures en cuir traditionnelles qui étaient hyper légères et en fait qui protégeaient pas du tout le pied, qui tenaient pas du tout le pied et qui faisaient qu'on se cassait la jambe quand on faisait du ski.
Ouais.
Grâce à Salomon, ça c'est terminé.
Ouais, c'est sûr, c'était pas super sûr, justement, pas très safe. Donc, c'est vraiment génial la fixation automatique et ils font fortune. L'entreprise Salomon fait fortune. Elle fait décoller son entreprise aussi grâce à cette fixation automatique. Là, on est dans les années 60, 1970 à peu près. Et l'entreprise, grandit, se développe. Et ensuite, Salomon, là, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils se mettent à développer des chaussures de ski. Les vraies chaussures de ski que vous voyez, là, que vous louez peut-être, ou que vous avez achetées si vous faites du ski.
Ouais, c'est ça. C'est donc vraiment des chaussures spécialement pour la glisse, quoi. Mmh. Mais en fait, ils les produisent de façon à révolutionner un peu le matériel de l'époque et surtout l'esthétisme, je crois. C'est une nouvelle esthétique parce qu'ils vont collaborer avec le designer du TGV.
Ouais, c'est la même personne qui a designé à l'époque, dans les années 70-80, qui a designé le train à grande vitesse français, donc le TGV. Et donc, qui dessine cette nouvelle chaussure. Et les gens à l'époque, j'ai lu ça et puis je me souviens, mon père avait acheté ces chaussures-là et il me disait que c'était des vrais chaussons, comme des chaussons. Donc il y a l'idée de confort et pour les skieurs, c'est beaucoup plus confortable la chaussure de ski par rapport à ce qui existait avant, quoi.
Tu vois. Ouais, c'est beaucoup plus confortable, donc c'est une vraie innovation et en même temps, c'est plus design, plus esthétique, donc aussi c'est plus joli.
C'est un bon souvenir, ouais, pour plein de gens. Bon, après, pour moi...
Pas pour toi.
Ouais, pour moi, c'est un peu moins bon, la chaussure de ski Salomon, parce que quand je suis allé au ski, pas la dernière fois, mais je me souviens, j'avais 15 ans en France, je me suis cassé la clavicule en faisant du ski. C'était le 25 décembre.
C'est très douloureux, hein, la clavicule, pour expliquer, c'est quoi ? C'est le haut du dos ?
Au niveau de...
De l'épaule.
Au niveau de l'épaule, près du cou, au niveau de l'épaule. Alors, je ne pourrais pas la décrire d'un point de vue médical, mais ça fait mal de se casser, de se briser la clavicule. Et en fait, c'était en faisant du ski. J'ai pris une bosse et je suis mal retombé. Et ensuite, quand les secours sont arrivés, quand le sauveteur est arrivé, il m'a pris sur son traîneau un peu.
Ouais, sur son brancard un peu,
ouais,
traîneau.
C'était une
quoi.
Sorte de traîneau en ski. Et je me souviens que j'étais en position allongée. Et que je voyais, en descendant la piste pour aller au centre de secours, je voyais mes pieds devant moi, sous mes yeux, et il y avait ces chaussures. Et pendant 15 minutes, pendant toute la descente des différentes pistes, pour aller en bas de la station, je voyais ces lettres et je souffrais. Et donc, j'ai toujours cette image quand je pense aux chaussures Salomon, personnellement. Voilà, je pense à cette scène. Mais évidemment que Salomon, en France, pour la chaussure de ski, c'est vraiment une référence.
Ouais,
quoi.
Ça reste une référence. Et bon, malgré ton accident, ils ont continué à se développer.
Bah, c'est ça.
Dans les années 90, ils font quoi? Ils continuent leur innovation?
Ouais, c'est ça. Et puis, bon, pour la faire un peu courte, hein, pour aller directement droit au but, bah, en fait, c'est là, dans les années 90, ils sont super visionnaires. Ils voient les choses, ils sentent les choses, Salomon. Et ils ne peuvent plus rester comme ça, comme une entreprise familiale. Ils se disent, il faut s'ouvrir.
On doit grandir.
Il faut grandir, voilà. On doit grandir, il faut s'ouvrir au monde. Et donc, ils vont vendre l'entreprise à Adidas, à la grande marque Adidas. Et là, ils se disent, bah, en fait, il y a le réchauffement climatique. La période d'enneigement des pistes, des stations de ski est de plus en plus courte. Donc, on ne peut plus, tu vois, on ne peut plus travailler seulement sur la saison de ski, tu vois, pendant l'hiver. Il faut travailler toute l'année.
C'est ça, il faut travailler pendant les 4 saisons et 365 jours par an. Donc, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se diversifier, ils vont arrêter de se focus, de se concentrer sur les sports d'hiver.
C'est ça.
Maintenant, il y a aussi les sports d'été. Et c'est là que sont lancées les chaussures Salomon. Alors, on ne parle plus de chaussures à ski, là. On parle de la basket, de la chaussure de rando, de la chaussure de running, de la chaussure de trail.
De toute façon, c'est ça, hein. Quand tu vois Salomon, ils sont toujours présents dans le ski. Ils sont toujours présents. Alors, dans le ski alpin, c'est vraiment la pratique qu'on fait principalement en France. Mm-hmm. Vous savez, c'est pour le ski alpin, c'est le ski qu'on pratique. Pour,
sur des pistes balisées, en général.
Ouais, mais pour quand il y a aussi de la descente, de la pente... Et donc Salomon est numéro 1 sur le ski alpin. Ils sont toujours numéro 2, je crois, sur le ski de fond. Donc le ski de fond, si vous habitez en Norvège, si vous habitez en Finlande, si vous habitez au Canada, en Suisse aussi, je crois, bah, vous connaissez forcément. Mais c'est vrai qu'en fait, là où ça fonctionne, c'est surtout le reste.
C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai vu une stat, 70% de leur business, donc plus de la majorité de leur business, et construit, en fait, se base sur tout le reste, hein, comme tu as dit, donc bah, textile de sport, outdoor, running pour les chaussures.
Mais surtout running, parce que quand tu vois les t-shirts, les vêtements, voilà, le haut, les shorts et tout ça, en fait, il y a tellement de concurrents.
C'est vrai. La
concurrence est féroce et rude. On parle de Nike, on parle d'Adidas, on parle de The North Face peut-être. Donc en fait, eux, Salomon s'est spécialisé sur cette fameuse chaussure. Et c'est ça qui marche depuis quoi? Depuis 5 ans?
Bah ouais, parce qu'en vrai, c'est hyper intéressant parce que c'est l'avenir, quoi. C'est le futur. Marcher, courir en montagne sur les chemins, c'est quelque chose qu'on aime de plus en plus après le Covid. Maintenant, on veut prendre l'air, on veut sortir et on veut... Voilà.
Ouais, et pas seulement pour les gens d'ailleurs qui courent vite ou qui court dans les montagnes, hein. Ça marche aussi pour la personne qui sort dans sa campagne juste pour faire les 10 000 pas, quoi. Voilà, c'est vraiment très à la mode de sortir dehors, donc c'est vrai qu'ils ont senti le filon ouais, pour la chaussure. Et justement, toi, Violaine, tu en es un parfait exemple, parce que tu as peut-être qu'on peut les prendre.
Je vais les prendre.
Vas-y. On a les chaussures Salomon sous les yeux. Alors, pas seulement, hein, tu as les chaussures Salomon et puis tu as aussi la veste Salomon, voilà, que tu prends, que tu peux ramener.
Ouais, un petit, c'est ce qu'on appelle un gilet d'hydratation pour les gens.
Ah oui, j'ai pas une veste.
Pour les gens qui courent. Alors, je crois qu'en anglais, on dit veste, mais en français, c'est un gilet d'hydratation, donc un petit gilet qu'on met quand on va courir, par exemple, dans lequel on peut mettre deux flasques d'eau et nos clés, notre téléphone...
Voilà. Ouais, il est tout joli, tout beau.
Très sobre.
très sobre, tout noir, mais surtout ce qui nous intéresse, donc, c'est ces fameuses chaussures de running, les Salomon. Est-ce que peut-être on peut les... Moi, je les trouve belles, tu vois. Elles sont comment ?
Elles sont belles, alors elles nous intéressent parce que tu dis que c'est des chaussures de running, mais il y a énormément de citadins maintenant qui les portent. Si vous sortez dans une grande ville en France, vous verrez beaucoup de citadins qui portent des baskets Salomon pour aller boire des bières. Alors, comment la décrire ? Déjà, j'ai envie de dire, je pense que c'est une chaussure qui attire un peu l'attention pour quelqu'un qui la voit la première fois. Elle est colorée et elle pourrait ressembler un peu à une sneakers, à une basket tradie.
Elle est quoi, de couleur ? Alors la tienne, elle est de couleur grise, il y a un peu de vert.
Ouais, marron, vert. J'aime la forme et surtout, j'aime bien les lacets. Comment vous expliquer ? Avec les Salomon, là, vous perdez pas de temps pour faire vos lacets parce qu'il n'y a pas besoin de faire les lacets. Donc, pour accrocher la chaussure, pour mettre la chaussure.
Et à l'intérieur, tu te sens bien ? Comment tu te sens ?
L'intérieur, c'est incroyable. Je les ai utilisées une fois pour courir. Elles sont très bien. Elles tiennent vachement le pied, donc c'est cool. Mais après, comme les chaussures de ski, t'as l'impression d'être dans des chaussons. Donc, quand je sors et que je les mets pour aller boire un verre, c'est hyper confortable. Je peux marcher longtemps. Voilà, confortable et stylé, l'espère.
Ouais, elles sont assez élégantes. C'est vrai. Donc, on les voit partout maintenant.
On les voit beaucoup, ouais. Elles sont assez modernes, en fait. Et maintenant, Salomon a compris le filon qu'il fallait exploiter. Donc, ils les sortent en plein de couleurs. Ils ont arrêté un peu de les faire uniquement en couleurs flashy, comme pour les sportifs. Maintenant, ils les font dans des couleurs plus sobres, plus diverses pour la ville, quoi, pour les gens qui veulent les utiliser en ville.
Ouais, moi j'aime bien ces baskets, je les trouve vraiment plutôt élégantes. C'est vrai que chez Salomon, je crois que c'est vraiment la chaussure de running que j'aime bien, que je préfère. Pour toute la partie vêtements, habits, je ne sais pas si on peut faire la comparaison avec les grandes sœurs, mais c'est vrai que quand je pense à Salomon, je fais tout de suite le rapprochement avec les marques Patagonia ou The North Face. J'ai envie de comparer, tu vois, ça me fait penser à ça, mais... Personnellement, d'un point de vue esthétique, je trouve que Patagonia, par exemple, fait des pulls plus sympas.
Et ouais, même s'il y a Patagonia, Carhartt, tout ça, qui sont des gros concurrents, est-ce que tu sais que Salomon exporte la majorité de son marché et que les premiers clients, c'est les États-Unis ?
Bah en fait, c'est une immense surprise parce que je pensais que c'était surtout en France, que c'était un marché français. Et ouais, en me renseignant, j'ai vu que la part, c'est 90% des...
De la production est destinée à l'export.
C'est ça.
Et le premier marché, c'est les États-Unis. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que on l'a pas mentionné, mais j'ai aussi été influencée pour ces chaussures. Parce que oui, c'est des chaussures de performance, mais en fait, c'est devenu maintenant une gravure de mode. C'est vraiment devenu un accessoire de mode, ces chaussures. Il y a énormément de stars américaines qui les portent. Pour vous donner des petits exemples, je vais en donner un peut-être. Rihanna au Super Bowl, qui portait des Salomon rouges.
C'était pas cette année, mais l'année dernière.
C'était pas cette année, l'année dernière peut-être. Donc voilà, maintenant c'est fou comme une vraie chaussure de performance est devenue un emblème presque de la mode. C'est intéressant.
Ouais, mais ça se comprend parce que c'est sobre. Alors le prix, est-ce que c'est plus cher qu'une basket traditionnelle un peu ?
C'est le même prix qu'une basket traditionnelle.
D'accord. Et c'est vrai que sur le prix, par contre, la marque Salomon est moins chère que la marque Patagonia. C'est un peu meilleur marché. Peut-être qu'ils peuvent jouer là-dessus aussi. Ouais. Mais voilà, personnellement, Salomon, les vêtements, ça me plaît un petit peu moins.
C'est vrai. Pour l'instant, c'est pas encore foufou. Mais là, justement, tu parlais de Patagonia. La comparaison est intéressante parce que je trouve que par rapport à Patagonia, Salomon a encore un peu des progrès à faire, notamment sur l'engagement pour l'écologie. Parce que voilà, on sait que le PDG de Patagonia, il a frappé un grand coup en donnant tous ces bénéfices à des assos éco-responsables.
Oui, mais... Patagonia, ils affichent l'argument éco-responsable, mais normalement, enfin, je ne suis pas spécialiste de la marque et ce n'est pas le sujet, mais ils respectent leurs engagements. Salomon, ils ont encore des progrès à faire sur ce domaine-là, quoi.
C'est ça, parce que je crois que maintenant, en fait, ils designent toujours à Annecy, mais ils produisent dans des usines à l'étranger, dans des pays moins chers.
On va dire le dessin, la conception de la chaussure se fait toujours en France, donc à Annecy. Mais tout le reste ouais, se fait dans d'autres pays. Et en fait, c'est vrai qu'ils se donnent quand même. Hein, ils affichent sur le site une image de, voilà, proche de la nature, qui se soucie de la planète, de l'écologie. Et pour le moment, je trouve que ce n'est pas forcément respecté.
Je vais regarder mes chaussures. Je crois qu'elles sont made in Vietnam. Fabriqué au Vietnam, et je crois que c'est pareil pour mon gilet. Donc,
après, juste pour prendre leur défense...
Vas-y, voilà. Fais-toi l'avocat du diable.
Je me fais l'avocat du diable, même si ce n'est pas le diable. Salomon, en fait, a lancé, il y a quelques mois, une nouvelle chaussure qui est, selon eux, conçue, créée, produite, fabriquée. Tout est fait dans les locaux, dans leurs usines, leurs entreprises. Alors, pas d'Annecy, mais en France, on va un peu plus à l'ouest, à Clermont, à Clermont-Ferrand, en Auvergne. Toujours dans cette, évidemment, ce décor de montagne. Mais voilà. Donc, évidemment, comme plein d'entreprises dans le milieu de l'aventure, de la montagne, du sport, ils essayent d'être plus verts.
Ok, bah écoute, on espère qu'ils vont développer cet aspect-là, quoi, sur leur production. J'ai une dernière info pour toi à mentionner. Est-ce que tu sais que Salomon va être le sponsor d'un grand événement ? Est-ce que tu as une idée ?
Alors, lequel ? C'est ça, la question ? Ouais. Un grand événement sportif ?
Oui.
Est-ce que c'est les JO de Paris ? Ça m'étonnerait.
Non, c'est pas les JO de Paris, c'est plus lié à l'image de la marque. Parce que JO de Paris, c'est en été, donc...
Donc, ça concerne un événement en hiver. Bah alors, ça doit être lié à une Coupe du Monde, un championnat du monde, peut-être de ski, de biathlon.
Plus grand encore.
Plus grand pour le ski, pour l'hiver, bah les JO, enfin les Jeux Olympiques, pas d'été, mais d'hiver, donc
ouais,
c'est ça.
C'est ça.
Donc là, c'est bientôt Paris, dans quelques mois, donc c'est tous les deux ans les JO. JO d'été, d'hiver, en alternance. Donc là, ça sera donc en 2026 ?
Ouais, en 2026, okay. À Milan, en Italie. Bah, Salomon fournira tous les vêtements, toutes les chaussures, tous les accessoires pour les sportifs, les juges, les arbitres.
C'est rigolo parce que Salomon est une marque française et puis on va là du côté de l'Italie. Ils auraient pu choisir une marque transalpine italienne, mais non, ils ont opté pour la marque française, donc ça prouve encore une fois, ça démontre à quel point
l'expansion de Salomon, quoi.
Ouais.
Et à quel point c'est une référence dans son domaine.
Cocorico, comme on dit.
Allez.
Cocorico pour la marque française, donc.
Très bien.
On va peut-être passer à notre recommandation parce que on a eu une idée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un lien avec le sujet du jour, Violaine ?
Il y a un lien tiré par les cheveux. Comme on dit.
Tiré par les cheveux, ça veut dire qu'un lien lointain.
C'est ça,
ouais.
Un lien lointain.
Alors c'est quoi le lien ?
Le lien, donc on va vous parler d'un film, et le lien c'est que l'un des acteurs du film vient de Grenoble dans les Alpes. Voilà pourquoi je dis que c'est un peu lointain.
Un peu tiré par les cheveux, oui, l'acteur principal, mais qui est quand même une star et qui est l'acteur français peut-être à suivre pour les prochaines années. On n'en a pas déjà parlé dans cet épisode, enfin pas dans cet épisode, mais dans le podcast.
On vous a déjà recommandé Cash avec cet acteur dans un des premiers épisodes et on recommence aujourd'hui, on récidive avec un autre film qui s'appelle Chien de la casse.
Chien de la casse, ouais. Chien de la casse qui a obtenu récemment, là, il y a quelques semaines, deux Césars. Donc, deux récompenses au César en France, dont le César du meilleur acteur pour Raphaël Quenard.
Et, meilleure révélation.
Meilleure révélation, voilà. Meilleur c'est plus précis. Meilleur espoir, voilà. Donc, parce qu'il est jeune aussi, il est nouveau. Chien de la casse, d'abord, j'aimerais qu'on s'arrête peut-être sur le terme chien de la casse. Peut-être qu'on pourrait donner une signification. Qu'est-ce que c'est avec nos mots ?
Avec nos mots. C'est un mot d'argot, hein, chien de la casse. C'est un mot vraiment qu'on va utiliser pour parler de... Alors, chien de la casse au masculin, pour parler d'un homme qui va être un peu perdu, qui va traîner, qui va pas faire grand-chose de ses journées, quoi.
Et qui va être agressif aussi parfois dans la vie. Ça, c'est ça, un chien de la casse. C'est de l'argot, t'as raison. Et alors, de quoi ça parle ce film que toi, t'as vu il y a quelques jours, voire quelques semaines, et puis moi, que j'ai regardé hier soir. Je me suis dit, avant d'en parler, il faut que je le voie.
Bah, c'est un film, alors l'histoire, elle est très, très simple. C'est deux amis Et c'est leur histoire d'amitié qui est perturbée par l'arrivée d'une fille, parce qu'un des garçons va tomber amoureux d'elle. Le sujet, c'est pas tant la raison pour laquelle j'ai envie de le recommander.
Mais c'est surtout la raison linguistique. C'est super intéressant d'un point de vue linguistique.
C'est ça, une des raisons principales, c'est que linguistiquement, je trouve que c'est un film très réussi et ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent. Alors oui, il y a beaucoup d'argot, il y a beaucoup de parler jeune, mais pour une fois, c'est pas caricaturé dans un film, c'est vraiment comme parlent les jeunes. Et d'un autre côté, il y a l'éloquence de Raphaël Quenard, qui est un acteur qui utilise un petit peu des mots désuets, qui a une...
Mais des expressions françaises aussi très utilisées, c'est pas ça. Seulement désuées. Mais c'est vrai qu'il arrive à mêler les deux.
Et voilà, il a un phrasé très, comment dire, très haché, très particulier, qui est très loin de tout ce qu'on peut voir, qui est formaté. Voilà, il est extrêmement différent dans son phrasé. Regardez le film, sinon allez voir des interviews de Raphaël Quenard, parce que c'est des grands moments.
Mais c'est vrai que c'est génial quand même, et c'est assez rare dans un film de pouvoir trouver, dans un film français, de pouvoir trouver un acteur, quelqu'un qui mêle, comme on a dit, qui arrive à dans une phrase utiliser vraiment des mots très argot, très jeune, très informel, et dans le même temps des phrases beaucoup plus soutenues et des expressions françaises. Voilà, donc pour vous, pour nos auditeurs, pour vous qui nous écoutez, c'est vraiment génial de pouvoir combiner les deux. Après, c'est pas hyper simple à comprendre parce que la prononciation, notamment de cet acteur, est assez déroutante, je trouve.
Déroutante, ouais,
spectaculaire, surprend.
Exactement, ça surprend. Il est hyper éloquent, donc le rythme, la manière dont il parle est très différente. Mais encore une fois, c'est pas un film où il y a énormément de dialogue. Donc je pense que vous pouvez garder le cap. C'est aussi un film contemplatif, poétique, donc vous pouvez vous y retrouver. Juste deux secondes, aussi pourquoi je le recommande, parce que d'un point de vue culturel, je trouve que c'est passionnant, c'est presque un film sociologique sur la France périurbaine, sur la France, les jeunes qui s'ennuient, qui tuent le temps. Et voilà, des jeunes que nous, on a pu être dans notre adolescence. C'est loin de Paris, c'est loin de tous les clichés qu'on peut voir. Et franchement, c'est un super film sociologique, linguistiquement, culturellement.
Et on voyage aussi.
Et on voyage et il correspond à tout ce qu'on veut transmettre dans ce podcast.
Et oui, et on voit des jolis paysages. Moi, ça m'a fait plaisir aussi de voir la campagne française. Alors, je crois qu'on est donc dans le sud-ouest de la France.
Pas très loin de Montpellier, hein. Je crois que c'est entre Montpellier et le sud-ouest de la France.
Et Perpignan. Donc, on est vraiment dans cette jolie région, dans le département 34. Et les petits villages qui sont vraiment magnifiques avec les champs. Voilà, moi ça m'a fait du bien. Par contre, peut-être qu'il faut parfois utiliser les sous-titres pour bien saisir l'argot de ce film. Voilà, il est disponible, on a vu, sur Amazon. Et puis, si vous vivez en France, sur MyCanal, une plateforme qu'on utilise beaucoup, peut-être que vous l'avez pour ceux et celles qui habitent en France.
Et puis, si vous ne connaissez pas encore Raphaël Quenard, regardez ce film pour le découvrir, parce qu'il est brillant. C'est vraiment un acteur incroyable qui a plein de belles choses à nous réserver, je pense.
Voilà, totalement. Voilà pour... on a bien vendu ce film, encore une fois.
Mais c'est un très, très beau film que j'ai vraiment beaucoup aimé.
Parfait. Bon, écoute, on va terminer là-dessus. Juste, Violaine, étant donné qu'on a parlé de basket, de chaussures, la basket, j'ai envie de finir sur une petite expression et de te poser une question. Violaine, est-ce que tu as pris ton pied pendant cet épisode, alors?
J'ai pris mon pied pendant cet épisode et je pense que cet après-midi, je vais prendre mon pied en allant courir avec mes Salomon aussi.
Parfait, très bonne réponse. Voilà, tu as pris ton pied, tu as pris beaucoup de plaisir. Exactement. À faire cet épisode. Donc, écoutez, on va vous laisser.
On peut y aller, ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, comme d'hab, au même endroit.
On vous embrasse.
À toutes.